Environ 30 minutes plus tard, alors qu'ils avaient passé Quiberville et arrivé en vue du phare d'Ailly, Paloma revint à la charge.
Mission accomplie. J'ai de nouvelles propositions.
Le professeur l'accueillit avec un grand sourire. Le vent avait rougi son visage et dispersé dans un grand désordre ses longs cheveux blancs. Il semblait presque avoir perdu son air supérieur de professeur d'université. Ce n'était pas pour déplaire à Paloma. Avant qu'elle puisse ouvrir la bouche, Bergton lui désigna un point sur le littoral.
L'église suspendue de Varangeville. Le cimetière marin. Le jardin des Moutiers, créé il y a un siècle du temps de Leblanc, est connu depuis dans toute l'Europe. Les petits ports boisés, les fameux cinq ports, la gorge du Petit Ailly, les ports des Moutiers, de Mordal, de Vastérival et de Morville.
Quelle splendeur! Le site le plus impressionnant de la côte. Maurice Leblanc parle de Varangeville dans l'Aiguille Creuse.
À quelle occasion?
À deux occasions. Tout d'abord, lors du drame d'Embrumésie, Isidore se rend à la mairie de Varangeville pour consulter des archives avec l'instituteur. C'est ainsi qu'il découvre qu'il existe une crypte sous la chapelle du château.
Et la seconde?
Elle est plus dramatique. Lupin lance un cadavre de femme du haut de Varangeville afin de faire passer la femme qu'il aime et qu'il a enlevée pour morte. Beautrelet le raconte très bien. La piste m'a conduit à l'église de Varangeville, à l'ancien cimetière suspendu au sommet de la falaise. Là, c'est le précipice. Un gouffre de plus de 100 mètres et en bas, les rochers, la mer. Dans un jour ou deux, une marée plus forte ramènera le corps sur la grève.
Bigre, c'est macabre.
Elle jeta néanmoins un coup d'œil admiratif à la curieuse église suspendue au-dessus de la Manche, que les coups de boutoir de la mer semblaient pouvoir faire basculer à chaque instant. Elle repoussa ses cheveux en arrière d'un revers de main élégant et fixa Roland Bergton.
Voulez-vous connaître mes nouvelles propositions ? Pour la dernière ligne, sous le fort de Fréfossé, O-U-E-O-E-E-O-E, que pensez-vous de « pour le coffret de force » ou, mieux, « rouvre coffret de force » ? C'est très lupinien, non ?
Tout à fait. Encore une piste.
Seulement une piste, c'est la solution. Vous n'y croyez pas ?
J'ai encore quelques doutes. Et je pense surtout que vous pouvez encore trouver mieux.
L'étudiante fit semblant de bouder.
Jamais satisfait, tant pis pour vous. Passons maintenant à votre analyse de la version audoise de l'œuvre de Maurice Leblanc.
Bergton prit un sourire satisfait, sûr de lui.
D'accord. Souvenez-vous, Paloma, quelle est la principale tactique de Lupin dans ses aventures ?
Détourner l'attention.
Vous avez parfaitement raison. Lupin procède toujours de la même façon. Il détourne l'attention. Il laisse croire que ses actes sont commis par hasard, par fantaisie, par vanité, par amour. Mais ce n'est jamais le cas. Ses actes sont toujours calculés. Les indices qu'il laisse derrière lui ou les informations multiples qu'il donne dans la presse sont toujours destinés à entraîner les enquêteurs sur une fausse piste. La piste qu'il a choisie. Ils permettent à Lupin de tirer les ficelles, d'être en avance sur les réactions de ses adversaires, de les mener où il veut.
D'accord, je suis d'accord, mais vous, où voulez-vous en venir ?
Si Maurice Leblanc a caché un code dans ses romans, un double sens, on peut parier qu'il a suivi la méthode d'Arsène Lupin. La sienne, en fait. Donc s'il a parlé dans son roman le plus énigmatique du cardinal de Bonnechose,
Paloma jubila.
C'est volontairement pour détourner l'attention.
Bien entendu. Maurice Leblanc connaissait toutes ces histoires de Templiers. Comme tout le monde, elles étaient déjà à la mode dans la bonne société parisienne. En glissant ce nom de Bonnechose, non seulement il donnait une crédibilité historique à son roman, mais de plus, il lançait immanquablement tous les chasseurs de trésors sur la piste de Carcassonne, de l'Aude, de Rennes-le-Château. Ils ont tous couru, comme les inspecteurs Ganimard ou Béchou, au moindre piège grossier tendu par Lupin.
Quel était le but de Maurice Leblanc ?
C'est simple. Si vous relisez toutes ces interprétations ésotériques de l'œuvre de Leblanc, que disent-elles ? Que le décor normand, la terre cauchoise des aventures de Lupin, est un leurre, une façade, un écran de fumée. La véritable signification des romans se trouverait dans le Midi, dans l'Aude, les châteaux cathares. Selon eux, toute cette géographie mystérieuse, ces liens entre les châteaux et les églises, il ne faut pas les chercher entre la Seine et la mer, mais en Occitanie. On fouille avec acharnement les églises et les calvaires du Sud-Ouest. Les chercheurs d'or consultent fiévreusement les archives des villages du Midi, mais personne ne songe à en faire de même en Normandie. Détournez l'attention. Vous avez compris. Si l'œuvre de Maurice Leblanc contient un code, c'est en Normandie qu'il faut le chercher, dans ce fameux triangle cauchois. Et cela n'a sans doute rien à voir avec tous ces fantasmes médiévaux politico-religieux. Toutes ces références historiques, de César au masque de fer, en passant par la compagnie du Saint-Sacrement, tout ceci c'est pour détourner l'attention. Leblanc agit comme agirait Lupin. La fantasmagorie ne sert qu'à dissimuler un acte ordinaire, un fait divers contemporain, une simple histoire d'ambition, d'envie, d'argent. Dites-moi plus. Je n'en sais pas beaucoup plus. Juste quelques hypothèses. On verra ça plus tard. Regardez, on passe au large de Dieppe. Dieppe est souvent cité par Leblanc dans le début de L'Aiguille creuse. Un témoin du drame d'Ambrumésy habite à Dieppe, 18 rue de la Barre. La rue existe toujours. Tous les protagonistes de ce drame séjournent à Dieppe, prennent la route de Dieppe à Ambrumésy, louent des automobiles à Dieppe, lisent le journal de Dieppe, la Vigie, se font soigner par les médecins de Dieppe et au passage se poursuivent dans la forêt d'Arc, près de Dieppe. C'est également à Dieppe qu'Arsène Lupin et Herlock Sholmes vont pour la première fois se déclarer la guerre.
Ils restèrent un instant silencieux pendant que Dieppe disparaissait déjà. Paloma surprit Bergton à sourire. « Vous riez tout seul, professeur ?» taquina Paloma.
« Je souris tout au plus. » Je repense à Maurice Leblanc. Savez-vous qu'il a imaginé une aventure où une secousse sismique faisait disparaître la Manche ? Ici même, coulant dans la minute tous les navires en mer.
Et c'est ce qui vous fait rire ? Le professeur prit un air résigné.
Je suis désolé, Paloma. Il nous en faut peu, nous autres intellectuels. Navré que l'évocation d'un isthme à la place de la mer sur laquelle nous voguons ne vous amuse pas.
Paloma fronça ses lèvres dans une moue charmante d'institutrice qui cherche à consoler un élève. Ne vous vexez pas, professeur. Je vous assure que ça m'amuse beaucoup. Donc, un isthme, vous disiez ?
Roland Bergton soupira.
« Oui. Un isthme que Maurice Leblanc baptisa « Isthme de Normandie » et qui apparaît tout d'abord à Dieppe où résident les héros de ce roman, le formidable événement. »
« Pas très crédible, tout ceci. »
« Vous avez tort. Maurice Leblanc donne dans ce roman des détails nombreux et très précis de la géologie de la Normandie, du pays de Caux et du sud de l'Angleterre. »«
Ouais. » Pas de Lupin dans ce roman ?
Pas de Lupin. Mais par contre, les héros passent leur temps à courir entre la France et l'Angleterre. Notre héros diepois recherche sa fiancée anglaise, enlevée par un pirate anglais. Une fiancée qui est d'ailleurs présentée comme la descendante de Guillaume le Conquérant.
Bigre, l'Angleterre, toujours l'Angleterre.
L'allure de la courtine ne faiblissait pas. Ils passèrent la Valeuse de Puy. Le professeur désigna à nouveau la falaise à son étudiante.
« Je peux encore vous ennuyer ?»«
Vous ne m'ennuyez jamais, bien au contraire. »
Bergton prit le compliment au premier degré et se redressa.
« Juste devant nous, une nouvelle valeuse inaccessible par la terre. La valeuse du camp de César. On l'appelle aussi valeuse de la cité des Limes. C'est peut-être le site du plus vieux port de la côte d'Albâtre. Incontestablement, à l'époque antique, la valeuse descendait jusqu'à la mer, puisqu'il existait un port. Aujourd'hui, elle est suspendue plus de 30 mètres au-dessus, du fait du recul de la falaise.
Et la partie de la falaise tombée dans la mer emporte avec elle les mystères de ce port antique. Mais pourquoi ce nom, le camp de César ?
Elle le doit aux vestiges d'une cité antique sur la falaise, un oppidum juste au-dessus de sa valeuse. Une très importante cité dont les ruines sont elles aussi en partie tombées dans la mer. Les spécialistes ne sont pas d'accord sur ses origines. Gallo-romaines, belges, celtiques. Le célèbre Alexandre Dumas s'est lui-même passionné pour cette énigme. Mais Louis XIII trancha en 1617 et l'attribua à César.
Quel César ?
On ne sait pas, mais on évoque souvent un certain Talbot surnommé César des Anglais.
Les Anglais, encore et toujours les Anglais.
Toujours. Maintenant, à nouveau un mur de falaise, jusqu'à Berneval et la centrale nucléaire de Penly. De nouveau, des villages perchés, sans accès à la mer.
Paloma sourit. Sauf s'il existe un escalier secret, une échelle dissimulée.
Il en existe. Juste avant Berneval, par exemple. Le Val du Prêtre. Une petite valeuse oubliée. Aujourd'hui déserte. Mais elle fut un port important jusqu'en 1825. Le poste de douanier qui existait au siècle dernier est lui aussi parti à la mer. Cette valeuse était même fortifiée par le génie militaire par crainte d'un débarquement anglais.
Il regarda Paloma et insista.
Eh oui, toujours les Anglais.
Un petit nuage qui masquait le soleil depuis quelques minutes se dissipa, inondant de lumière le pont de la courtine. Une nouvelle fois, Paloma savoura le soleil. Roland Bergton ne put s'empêcher d'admirer le profil lumineux de la jeune étudiante. Un scintillement attira son regard. Il baissa les yeux. Le soleil faisait briller le collier de Paloma, le mystérieux dodécaèdre de cristal serti d'un triangle d'argent. Paloma croisa son regard, gêné.
Vous croyez vraiment que ce pendentif possède un rapport avec tout ceci ?
Comment savoir ? Comment y voir clair dans tous ces indices ? Un triangle, 12 châteaux, 4 lignes de code avec des points et des voyelles.
Et une multitude de lieux cités aux quatre coins de la Normandie, sans oublier la menace de ce mystérieux Roberto Martinez ? Curieux d'ailleurs ce nom espagnol. Moi qui pensais que la clé de l'énigme se trouvait de l'autre côté de la Manche, en Angleterre.
Les yeux de Bergton se fermaient doucement sous l'effet conjugué du roulis de la courtine, du soleil et des embruns marins. Paloma fut un peu déçue, mais s'envola elle aussi dans ses réflexions. Plus de 3/4 d'heure plus tard, ils furent réveillés par la corne de la courtine. Ils se retournèrent. Le pêcheur à la barre leur fit un grand signe de la main. Ils arrivaient en vue de la valeuse de Parfonval. Roland Bergton retrouva immédiatement sa forme.
Ça va mieux, rien de tel qu'un petit somme. C'est les cadences infernales, l'université, croyez-moi.
Il s'étira et continua.
Nous voici enfin arrivés à Port-Lupin. On entre également ici dans une portion de littoral étrange. Un mur de falaise, mais aussi des valeuses oubliées qui ne sont accessibles que par des champs aujourd'hui privés. Comme du côté de Saint-Martin-aux-Buneaux. Pas de route, parfois pas même un sentier. Le camp d'Adane, le Val du Ménil, le Val Paulet, et bien sûr, Parfonval.
Le bateau approcha au mieux de la côte, mais son tirant d'eau lui interdisait de s'en approcher à plus de 50 mètres. Bergton regarda sa montre. 15h48. Il se frotta les mains.
Parfait, il est même pas 16h.
Paloma, incrédule, regardait devant elle la falaise. Il n'y avait aucun port pour que la courtine puisse accoster. Elle interpella Roland Bergton.
Comment on fait maintenant ? On nage ? Je vous préviens, je n'ai pas de maillot.
Le regard de Bergton délaissa un instant le visage de Paloma pour glisser sur le corps de la jeune femme. Discrètement, presque imperceptiblement. Paloma se sentit néanmoins déshabillée du regard. Elle avait ôté son coupe-vent quelques minutes auparavant. Elle rougit, songeant à sa tenue courte et moulante. Le professeur affichait un sourire coquin.
« Ne vous inquiétez pas, pudique Paloma. Je suis un homme organisé. »
et lui désigna une petite barque qui se rapprochait.
« Regardez, un Doris. »«
Un Doris ? Qu'est-ce que c'est ?»«
Vous ne savez pas ? Mais quelle honte ! Et vous travaillez à l'office de tourisme de Saint-Valery-en-Caux. Un Doris, c'est une barque à fond plat, la barque qui est utilisée sur cette côte par les pêcheurs, pour pouvoir accoster facilement partout et être ensuite tiré sur les galets. » Des héritières directes de celles utilisées par les morutiers au large de Terre-Neuve.
Et ce pêcheur vient nous chercher ?
Oui, mais ce n'est pas un pêcheur. C'est Nils Panur, un de mes anciens étudiants. Il travaille au conservatoire du littoral, je lui ai passé un coup de fil tout à l'heure.
Le professeur conclut sa phrase par un petit sourire énigmatique que Paloma ne comprit pas. Cela l'agaça.